Allez, allez, en selle pour la suite des midis de culture. À 13h, je recevrai Juliette Binoche pour parler du film The Return, le retour d'Ulysse. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour à tous. Malgré une crise de la culture due à une baisse majeure des subventions, il y a de plus en plus de festivals qui se créent chaque année en France. Alors, qui sont les créateurs de ces festivals? Que permet la forme festival que ne permettent pas les autres secteurs du milieu culturel? Et doit-on craindre une festivalisation de la culture? C'est le dossier du Point Culture du jour. Julien Audemars, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Montpellier. Vous venez de co-diriger un ouvrage intitulé « Création et devenir des festivals en France » publié aux presses Sciences Po. Et vous vous rappelez dans cet ouvrage la spécificité de la forme festival dans l'écosystème culturel français. Alors à l'heure où on annonce tous les jours des baisses de subventions, est-ce qu'il y a toujours des créations de nouveaux festivals en France ?
Oui, absolument. Depuis quelques années, ce qu'on observe dans nos travaux, et de manière générale dans les travaux universitaires sur le sujet, c'est un phénomène de festivalisation de la culture, ce qui renvoie de manière très générale à un mouvement de création assez fort, des festivals, et ce, au moins depuis une vingtaine d'années. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est un phénomène qui s'est sans doute accéléré au cours des 10 dernières années. Alors, ce qui se mesure, alors d'une part, tout simplement par la croissance du nombre de festivals, mais également par la croissance du nombre de personnes qui déclarent, dans les enquêtes du ministère de la Culture notamment, être allées dans un festival au cours de l'année écoulée. Lors de la dernière enquête, en 2018, ce chiffre était de 20%, un peu moins, 19%.
Mais alors, comment expliquer que dans un quand même un climat un peu morose, on en parle ici même tous les jours, que le secteur de la culture souffre, il y ait encore et de plus en plus de créations de festivals?
Bien, une des raisons, c'est que la forme festivalière est une forme d'offre culturelle relativement flexible finalement. La plupart des festivals en France, alors même si on a en tête des exemples issus de ce qu'on pourrait qualifier de grandes affiches, qui sont soutenues parfois par des groupes de production très importants, la plupart des festivals en France sont des associations de loi 1901, avec des moyens très limités, certes, mais avec des capacités d'innovation, d'adaptation au territoire très élevées, ce qui fait que c'est une forme d'offre culturelle finalement assez facile à mettre en œuvre, même si elle pose de nombreux défis quant à sa pérennisation.
Et alors, qui aujourd'hui sont les personnes qui créent les festivals? Sur quelle motivation? On a souvent dit que le milieu des festivals était peut-être moins professionnel que d'autres du secteur culturel. Est-ce que c'est toujours le cas?
C'est toujours le cas, c'est tout à fait vrai, même si nous, ce qu'on observe dans l'ouvrage, c'est un mouvement de professionnalisation des équipes de création à l'origine des festivals. Alors, ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est qu'il y a une véritable différence en fonction du territoire d'implantation. La professionnalisation est d'autant plus avancée que le festival se développe en milieu urbain. En revanche, plus on se déplace dans les milieux ruraux, plus cette professionnalisation devient moins évidente. Et c'est là qu'on retrouve souvent des petites équipes montées par des associations composées de proches qui développent des événements dans des territoires où finalement il y a assez peu d'offres culturelles.
Alors, pour avoir longtemps suivi les festivals en France, moi j'ai pu constater à quel point les bénévoles sont centraux dans l'organisation d'un festival et même dans la survie ou la vie d'un festival. Est-ce que cette présence bénévole, c'est une des caractéristiques du festival en France ?
Absolument. Alors, si on compare le festival à d'autres institutions culturelles, c'est une caractéristique majeure. En France, la part de bénévoles au sein des équipes impliqués dans l'organisation des festivals est en moyenne à peu près de 60%, donc c'est énorme.
Et est-ce qu'il n'y a pas une crainte que ce soit une génération particulière de bénévoles? Pour les avoir rencontrés, ce sont des gens qui souvent sont de jeunes retraités, on pourrait le dire comme ça. Est-ce qu'il y a une relève? Est-ce que vous constatez que les jeunes générations s'impliquent aussi de façon bénévole dans les festivals?
Alors, c'est une question tout à fait complexe et à mon avis qui recouvre des réalités très différentes selon les types de territoires. Alors effectivement, ce qu'on observe nous, c'est une relative défection de bénévoles dans certains milieux, en particulier dans les milieux les plus urbains. C'est quelque chose qui est assez frappant dans notre ouvrage. Et la défection de bénévoles et tout ce qui tourne autour de ce qu'on a qualifié, nous, de facteurs territoriaux à l'organisation des festivals est l'un des facteurs principaux de la disparition, ou en tout cas de la fragilisation de ce type d'événement. C'est-à-dire que, effectivement, le fait que les bénévoles peinent à se renouveler dans certains milieux, et vous avez tout à fait raison, c'est lié à des facteurs générationnels, est l'un des facteurs principaux de fragilité de ce type d'événement.
Est-ce que vous avez constaté également parmi vos enquêtes que de bénévole, on peut devenir professionnel ? Est-ce que le festival est un lieu de professionnalisation, j'allais dire personnel, individuel ?
Absolument. Le festival est un lieu où des carrières au sein du milieu culturel se font, tout à fait. Et il n'est pas rare d'observer, dans plusieurs cas, des équipes initialement assez peu professionnalisées qui finissent par acquérir des compétences, à nouer des contacts. Il faut signaler ici que l'organisation d'un festival demande non seulement la maîtrise de compétences très multiples, qui sont des compétences propres au milieu culturel, mais aussi des compétences relationnelles. Il faut être capable, par exemple, de communiquer et de négocier avec les élus, avec les partenaires financiers privés présents dans les territoires. Donc, tout cet ensemble de compétences qu'exige l'organisation d'un festival conduit, en effet, certains acteurs à se professionnaliser petit à petit.
Alors, dernière question, et ce sera notre conclusion, Julien Audemars. Certains acteurs du monde de la culture se sont émus ces dernières années de ce que vous avez d'ailleurs vous-même aussi appelé la festivalisation de la culture. Comment comprenez-vous cette crainte ?
Eh bien, on peut la comprendre sous différents aspects. Alors, un premier aspect, tout simplement, c'est qu'elle implique finalement une certaine forme de rupture avec un modèle des politiques culturelles, somme toute classique en France, qui est le modèle de la démocratisation culturelle, où l'offre vient d'en haut, vient des pouvoirs publics et se diffuse au travers d'institutions labellisées au sein desquelles les pouvoirs publics interviennent, si ce n'est directement, de manière indirecte et très forte. Les festivals sont une forme d'offre culturelle, une forme d'administration de l'offre culturelle un peu plus indépendante des pouvoirs publics. La deuxième raison, c'est que les festivals ont pu être perçus également comme une forme finalement assez populaire, assez festive, si vous voulez, de l'accès à la culture, où finalement l'amusement, le divertissement prendrait le pas sur la consommation culturelle dans un sens plutôt légitime. Donc ça aussi, ça a pu être quelque chose qui a nourri certaines craintes chez les élus. Alors, dans nos travaux, évidemment, ce que l'on tend à montrer lorsqu'on s'intéresse au public des festivals, c'est qu'en réalité, ces craintes sont assez peu fondées. Et les publics des festivals, alors, en raison de leur participation à ce type d'événement, mais aussi en raison de leurs caractéristiques personnelles, sociodémographiques, sont des gens qui s'intéressent non seulement à la culture telle qu'elle peut se diffuser au sein des festivals, où effectivement l'élément de divertissement festif est très fort, mais également à une culture beaucoup plus traditionnelle, légitime, pourrait-on dire.
Eh bien, merci beaucoup, Julien Audemars.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, le sculpteur américain Joël Shapiro est mort.
Oui, il était connu pour ses œuvres géométriques, tantôt abstraites, tantôt figuratives, sur lesquelles de vives couleurs pouvaient apparaître quand elles n'étaient pas en bois ou en bronze. Ses premiers travaux ont été représentés des objets du quotidien, puis il a créé des sculptures grandeur nature qui évoquaient souvent des corps en mouvement. Ce sont ces sculptures monumentales à Washington, Canton ou Orléans qui l'ont fait connaître du grand public. Il n'a pas hésité, au fil de son parcours, à démonter et à reconfigurer ses propres créations.
Et pour finir, Marie, l'État va soutenir la filière musicale à hauteur de 500 millions d'euros.
Oui, c'est le ministère de la Culture qui l'a annoncé hier. Ces financements seront alloués à travers la Banque publique d'investissement BPI France par tranche de 100 millions d'euros par an jusqu'en 2030. Ils permettront d'accompagner des sociétés françaises en forte croissance, des projets de développement à l'international ou encore des projets de consolidation. Selon le ministère, ce financement doit permettre d'assurer le développement sur le moyen et long terme des entreprises françaises rentables de la filière musicale.
Merci Marie, puis on se retrouve demain pour d'autres actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.